Vous êtes avec SBS French. Retrouvez les rubriques sur sbs.com.au/french.
On débute cette émission avec le journal et les grands titres. La Tasmanie qui entre dans un confinement de 3 jours après une violation de quarantaine. Un député britannique poignardé à mort dans sa circonscription locale. Et en sport, le joueur de tennis numéro 3 mondial, Stefanos Tsitsipas, a été éliminé de la compétition de l'Indian Wells. On commence donc ce journal avec le Covid et l'état du Covid, le point Covid en Australie. Donc pour ce samedi, aucun nouveau cas de coronavirus n'a été enregistré en Tasmanie, alors que l'état et l'île est maintenant en confinement donc pour 3 jours. Le premier de l'état, Peter Godwin, a annoncé cette mise en confinement à la suite qu'un homme infecté de Nouvelle-Galles du Sud se soit échappé de la quarantaine de l'hôtel dans lequel il était. L'homme de 31 ans a refusé de coopérer avec les traceurs de contact après avoir été arrêté dans la banlieue nord de Hobart plus tôt dans la semaine. Passant 18 heures dans la communauté, dont 2 maisons, un supermarché Woolworth et un parc, la Tasmanie n'a aucun autre cas actif pour le moment. Il y a donc pour l'instant, grâce à des mesures strictes aux frontières, l'État n'a enregistré que 3 cas cette année. Le Victoria a enregistré aujourd'hui 1993 nouveaux cas de Covid-19 et 7 autres décès, portant le nombre de morts de l'épidémie dans la vague actuelle à 138. L'État est en passe de franchir les 70% de double vaccination au cours de la semaine à venir. Les autorités sanitaires confirment que plus de 40 000 doses de vaccins ont été administrées au cours des dernières 24 heures. Le trésorier fédéral Josh Frydenberg a appelé le gouvernement d'ailleurs du Victoria à assouplir les restrictions avec la Nouvelle-Galles du Sud. Il dit que les résidents du Victoria ont fait de bonnes choses et ils ont tout bien suivi le plan en se faisant vacciner et devraient avoir de même liberté une fois les jalons de vaccination de 70 et 80% atteints. On écoute Josh Frydenberg.
We may lose the curfew at 70%, but you still can't move more than 25 kilometres from your home. And now we have this ludicrous and unacceptable situation where somebody in Sydney can travel nearly 1,000 kilometres, whereas someone in Melbourne can't even go and visit their family in the same place. Victorians are looking at what's happening in New South Wales and say, why do those people get the freedoms that we are not getting? Melburnians have spent more time in lockdown than any other city in the world.
C'était donc Josh Frydenberg. La Nouvelle-Galles du Sud, on en a tout juste parlé, a enregistré 319 nouveaux cas de Covid-19 et 2 nouveaux décès. L'État devrait atteindre 80% de vaccination à double dose d'ici à la fin de ce week-end, avec donc de nouvelles restrictions qui devraient s'assouplir dès lundi prochain. La Nouvelle-Galles du Sud d'ailleurs, où le gouvernement a également défini une nouvelle politique de logement pour l'État, y compris le financement de logements sociaux et l'aide au loyer. 183 millions de dollars sont mis de côté pour soutenir le logement social et la construction de 1400 logements, principalement à l'ouest de Sydney. La ministre de l'eau, de la propriété et du logement, Melinda Pavey, a déclaré que l'accent serait également mis sur le logement autochtone.
This is what people want to see, jobs being created through construction and 1,400 new homes we expect across New South Wales and Western Sydney. It's about additional housing and it's also in the Aboriginal housing space, $40 million towards that, regional housing space and Western Sydney. We've got some exciting projects like this one on the drawing boards and it is also going to ensure that we can build some more, employ some more people and get some new homes.
13h05, on part maintenant dans l'actualité travers le monde. En Afghanistan, des kamikazes ont tué au moins 47 personnes et blessé 70 autres lors d'une attaque contre une mosquée chiite dans le sud du pays. Des témoins oculaires disent que les 3 kamikazes étaient impliqués, mais personne n'a encore revendiqué la responsabilité de l'attaque. L'explosion survient quelques jours après une attaque meurtrière de l'État islamique contre une mosquée au nord de Kunduz. Le point avec Sonia Djelazi pour RFI.
La mosquée chiite Bibi Fatma était bondée au moment de l'attaque. Sur les vidéos insoutenables qui circulent sur les réseaux sociaux, prises par les premiers témoins, on peut voir des corps sans vie, ensanglantés, certains recouverts de draps ou de tissus sur les tapis de prière couverts de sang. Devant l'hôpital Mirwais de Kandahar, où les blessés sont pris en charge, des dizaines de personnes font la queue pour donner leur sang car les blessés sont nombreux. La population est en colère, lâche un résident de Kandahar joint par téléphone. On ne peut rien attendre de ce nouveau gouvernement, même pas la sécurité, dit-il. Tous les regards se tournent vers la branche afghane du groupe État islamique qui a revendiqué l'attaque contre une mosquée chiite à Kunduz vendredi dernier. La peur a grimpé d'un cran dans la communauté chiite afghane, nous explique une consœur Hazara à Kaboul. Nous sommes terrorisés, dit-elle. Un jeune étudiant chiite, aussi contacté par téléphone et qui vit à Kaboul, nous explique limiter ses sorties. En plus des exactions commises contre les chiites par les talibans, nous subissons aussi les attaques de Daesh, lâche-t-il. Confiance en désespoir.
Voilà donc pour la situation en Afghanistan. Au Royaume-Uni, la police antiterroriste a été chargée de l'enquête sur l'assassinat à l'arme blanche d'un député qui était en pleine séance de rencontre avec ses administrés. Le député David Ames, âgé de 69 ans, a été poignardé peu après midi. Les explications de Marie Baudéal.
L'enquête a été confiée au service antiterroriste. Ils vont devoir déterminer s'il s'agit d'un attentat. David Ames tenait une permanence où il rencontrait ses électeurs. C'était absolument épouvantable, raconte son conseiller qui était présent. Un homme est entré en courant dans l'église, s'est jeté sur le député et l'a poignardé à plusieurs reprises. Il a été rapidement pris en charge par les services d'urgence sur le lieu de l'attaque, mais a succombé à ses blessures quelques heures plus tard. Boris Johnson, le premier ministre britannique, lui a rendu hommage. Il était l'une des personnes les plus gentilles, les plus agréables et les plus douces en politique. Un suspect de 25 ans a été immédiatement arrêté. Le couteau a aussi été retrouvé. La ministre de l'Intérieur, Priti Patel, a demandé à toutes les forces de police de revoir immédiatement les dispositions pour protéger les députés. Ce meurtre relance le sujet de la sécurité des parlementaires. Il y a 5 ans, la députée travailliste Jo Cox a été assassinée alors qu'elle tenait une permanence dans une bibliothèque.
C'était Marie Modéal pour RFI. La COP26, la conférence sur le climat de Glasgow, qui est sur le point de se tenir, et ce, avec l'ombre de l'absence de marquantes possibles, hein, comme les Russes ou encore les Indiens. Les Australiens seront là avec le Premier ministre Scott Morrison, qui a donc décidé de s'y rendre, non sans traîner les pieds. Vincent Sorio.
Il a cédé sous la pression de ses principaux alliés, Joe Biden et Boris Johnson. Mais le cœur n'y est pas. Scott Morrison se rend visiblement à la COP26 à reculons. Car si la plupart des grandes puissances veulent éradiquer les émissions de gaz à effet de serre dans les 25 ans qui viennent, c'est le fameux objectif zéro émission d'ici à 2050, l'Australie ne s'y est toujours pas engagée et se fait taper sur les doigts de toutes parts. L'ancien secrétaire général de l'ONU, Ban Ki-moon, parle d'efforts insuffisants. Le prince Charles, dans l'une de ses rares déclarations publiques, s'est même fendu d'un cri d'alarme. Ne pas aller à la COP, disait-il, c'est rater la réunion de la dernière chance. Scott Morrison a donc fini par craquer. Maintenant, va-t-il sauter le pas et annoncer à l'occasion de cette COP que l'Australie entend rattraper son retard dans la lutte contre le changement climatique? C'est l'un des grands enjeux du sommet pour les pays de la région Asie-Pacifique.
C'était Vincent Sorio pour RFI. 13h09. La création du Bitcoin au Salvador préoccupe les écologistes avec des quantités massives d'électricité pour alimenter les ordinateurs alors qu'ils effectuent les calculs mathématiques complexes vérifiant les transactions pour la création de la crypto-monnaie. Le Bitcoin a eu un cours légal en septembre. C'était créé par le président Nayib Bukele qui a promis d'utiliser une énergie renouvelable bon marché pour ce qu'on appelle donc le minage des coins, des bitcoins. Les critiques disent que l'énergie renouvelable devrait plutôt aller aux résidents et non à des opérations minières de crypto-monnaies, disant qu'elles ont une empreinte écologique énorme à la fois sur donc, l'écologie et sur l'empreinte carbone. Daniel Alvarez, le président de la commission exécutive hydroélectrique de Rio Lampa, a déclaré que les ressources géothermiques qui alimentent les ordinateurs proviennent de la vapeur à haute pression produite par la chaleur volcanique souterraine. On l'écoute.
We don't depend on oil, we don't depend on natural gas, and we don't depend on any resource that is not renewable. Just water, heated by the power of the earth. That generates electric power. With this, we are making a first step, being the first country in the world to have the Bitcoin as a legal tender, and we can also generate more resources through Bitcoin mining by using this energetic resource.
13h10, en Italie, la compagnie aérienne Alitalia a éteint ses derniers moteurs. Après 74 années de service, Alitalia est donc morte et elle est remplacée par une autre compagnie aérienne, ITA. Abla Jonaidi.
Alitalia, 74 ans d'activité, un logo vert et rouge sur fond blanc comme le drapeau national et une histoire qui se confond avec celle de l'Italie contemporaine. Symbole de sa réussite industrielle après la Deuxième Guerre mondiale, elle est devenue la 7e compagnie au monde dans les années 1970. Puis c'est le déclin économique. Le fleuron national n'a pas su se renouveler et prendre le virage du long courrier notamment, se laissant rogner des marges par les compagnies européennes à bas coût. Pour sauver le groupe endetté, l'État a déboursé en 20 plus de 13 milliards d'euros, mais à la fin, c'est plus de 11 milliards d'euros de dettes que le groupe accumule. Il est mis sous tutelle publique en 2018 pour lui éviter la faillite et trouver un repreneur. En vain, les conséquences de la pandémie de Covid-19 sonnent le glas d'Alitalia. Au terme de longues négociations avec Bruxelles, c'est ITA qui lui succède. La petite société reprend seulement un tiers de la flotte et 3 000 employés d'Alitalia sur 10 000 cette année. Mais le personnel de la compagnie historique doute que la nouvelle entité soit assez viable pour embaucher 5 750 employés en plus en 2022, comme cela a été annoncé.
Allez, un mot de sport pour conclure ce journal en tennis. Nicolas Bichialiewski, 29 ans, a enregistré bien la première victoire de sa carrière en battant le numéro 3 mondial Stefanos Tsitsipas et en se qualifiant pour la demi-finale de l'Indian Wells, donc classé 36e mondial. Sa précédente victoire jusqu'à ce niveau était contre Juan Martín Del Potro, numéro 4 mondial, lors de la finale à Pékin en 2018. Coup d'œil météo pour aujourd'hui. À Perth, il fera 25 degrés. Adélaïde, 17. Melbourne, 16. Hobart, 14. Canberra, 16. Sydney, 23. Newcastle, 25. Brisbane, 28. Cairns, 32. Et Darwin, 35 degrés. Un rappel des grands titres de l'actualité pour aujourd'hui. La Tasmanie qui entre donc en confinement de 3 jours après qu'un homme ait violé la quarantaine. Un député britannique poignardé à mort dans sa circonscription locale. Et en sport, on vient de le voir, le numéro 3 mondial Stefanos Tsitsipas a été éliminé de la compétition de l'Indian Wells.
Vous aimez le programme en français ? Continuons la conversation sur notre page Facebook. Rejoignez notre page Facebook et partagez vos pensées. facebook.com/sbsfrench.
Vous voulez entendre d'autres rubriques comme celle-ci ? Écoutez-les sur Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify ou n'importe où vous obtenez vos podcasts.